Et ce matin, moi je suis super content, on retourne dans l'évangile de Jean. C'est mon évangile préféré. Des quatre évangiles, c'est mon évangile préféré. En 25 ans de ministère pastoral avec l'Église de l'Espoir, c'est la deuxième fois que j'ai le privilège de passer à travers tout ce bel évangile-là puis de faire cette série avec vous. Alors, je suis très, très content de ça. Et ce matin, dans le passage qu'on va aller voir ensemble, on va aller à la rencontre d'un homme qui a souffert toute sa vie jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance après, mais on ne connaît pas la suite de son histoire. C'est un homme qui a beaucoup souffert. Et je veux attirer votre attention pour que vous soyez attentifs dans la lecture du passage. Il y a quelque chose d'intéressant qui va se passer. C'est à travers sa souffrance à lui que Jésus va venir se faire connaître. Jésus va venir se révéler. Il y a quelque chose là-dedans pour chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous, on est appelé tôt ou tard à souffrir. C'est la réalité de l'humanité. Et donc, à travers sa souffrance, Jésus va venir se faire connaître à lui, puis ça va être le début de littéralement d'un éblouissement absolument extraordinaire. Alors, on va aller dans la prière, puis on va écouter la lecture des Écritures, puis on va retrouver ensemble l'Évangile de Jean. Seigneur Jésus, tu sais combien j'aime cet Évangile, Seigneur. Tous les livres de la Bible sont inspirés, mais celui-là m'a toujours parlé particulièrement. J'ai l'impression d'accéder à la profondeur de ta pensée. J'ai l'impression de rentrer dans l'intimité de ta relation avec ton Père. J'aime tellement ton humanité dans ton contact avec les gens qui souffrent à travers cet évangile-là. Puis ta manière de confronter aussi les religieux, les gens qui regardent de haut parce qu'eux pensent connaître Dieu. Merci pour ce passage, Seigneur, tu m'as fait du bien à moi. Tu as fait du bien à mon âme cette semaine à travers ce passage. Et tu connais la prière de mon cœur, Seigneur, ça fait déjà plusieurs jours que je te le demande. Je te demande de venir faire du bien à ton Église, de venir parler, de venir instruire, de venir édifier, de venir consoler, de venir éclairer. Toi, la lumière du monde, viens éclairer les hommes et les femmes qui souffrent, mes frères et sœurs dans la foi, dans l'Église qui souffre aussi, Seigneur. Viens nous parler de toi, puis viens nous montrer comment tu te manifestes à travers même nos souffrances. C'est en ton précieux nom qu'on prie. Amen. Amen. On va écouter la lecture des Écritures.
Alors, on est dans l'Évangile de Jean, on est rendu au chapitre 9, les versets 1 à 7, et puis les versets 35 à 41 dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Jean 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit: « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. » Verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit: « Crois-tu au Fils de Dieu ? » Il répondit: « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit: « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Puis Jésus dit: « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent: « Nous aussi, sommes-nous aveugles? » Jésus leur répondit: « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites: nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. »
Merci. La souffrance, c'est une expérience commune à tous les êtres humains, comme je disais tantôt avant le passage. En fait, tu pourrais probablement écrire l'histoire de ta vie à travers les moments de souffrance dans ta vie. Ce n'est pas comme l'histoire qu'on voudrait écrire, mais nos vies sont ponctuées de souffrances. À toutes sortes de moments, il y en a chez qui c'est presque omniprésent toute leur vie. Des souffrances physiques, des handicaps. D'autres personnes, ça va être de la souffrance psychologique. Mais chacun d'entre nous, on est appelé à souffrir. C'est un des éléments les plus communs de l'expérience humaine. Tout le monde est appelé à souffrir d'une manière ou d'une autre. Que ce soit des souffrances physiques, des souffrances psychologiques, des souffrances relationnelles, la souffrance fait partie de l'expérience humaine. Puis je dirais que depuis 2 ans, la Terre, les êtres humains sur la Terre, souffrent beaucoup plus qu'il y a 2 ans. Un an et demi. La réalité, c'est qu'avec avec le virus, avec tout ce qu'on a pris comme mesure pour gérer ça, aussi pour contenir ça, ce que ça a engendré comme isolement, ce que ça a engendré comme crise économique, puis on n'est pas encore sorti du bois, l'être humain souffre davantage. Pensons aux gens qui ont souffert du virus lui-même ou qui en souffrent encore. Pensons aux gens qui travaillent 2 fois plus fort depuis le début. Quel paradoxe, hein? Il y a une partie de la population qui est comme appelée à travailler moins pour s'isoler, puis il y a une autre partie de la population qui travaille 2 fois plus fort. Et dans les deux cas, il y a de la détresse psychologique, souvent qui est engendrée par ça, de l'épuisement, de l'anxiété, de la solitude. On voit qu'il y a des crises d'anxiété chez nos aînés qui sont isolés, chez les étudiants, on en entend de plus en plus parler. Cette semaine, ça m'a brisé le cœur d'entendre parler des 2 travailleuses sociales de la DPJ, de 2 intervenantes de la DPJ qui se sont littéralement enlevées la vie, 23 ans, 26 ans. Mais quel brise-cœur, il y a de la souffrance actuellement dans le monde. Ce passage-là de ce matin nous aide à réfléchir comme chrétiens et à comprendre qu'est-ce que la souffrance prend comme sens dans nos vies? C'est quand même une grande question. Quand tu souffres, la question vient inévitablement. Pourquoi? À quoi ça sert? Ça mène où? Qu'est-ce que je dois apprendre de ça? Et ce matin, je m'adresse particulièrement aux chrétiens ou à ceux qui cherchent Dieu parce qu'à travers la souffrance d'un homme, Christ, Jésus-Christ, va venir se manifester. Il va venir le rencontrer dans sa souffrance à lui. Puis je vous donne déjà une piste. Au verset 3, dans Jean 9, verset 3, on lit « Jésus répondit au questionnement des disciples et il dit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Quelle parole mystérieuse! « C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Ça parle de sa souffrance, de sa condition aveugle de naissance. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Jésus est la lumière du monde et il vient éclairer les cœurs humbles. J'ajouterai ceci particulièrement dans la souffrance. Jésus est la lumière du monde, il vient éclairer les cœurs humbles et particulièrement dans la souffrance. À mon premier point ce matin, nous souffrons afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. En retournant dans l'Évangile de Jean, on revient vraiment vers une prédication on appelle ça une prédication par exposition. On cherche vraiment à exposer le passage. Ce que je vous apporte dimanche après dimanche, ce que le prédicateur vous apporte, devrait refléter l'idée principale du texte. Je ne suis pas là pour vous partager mes réflexions, je suis là pour vous partager la pensée de Dieu, puis un peu la contextualiser, chercher à l'appliquer, la méditer dans ma vie, dans nos vies, dans la vie de l'Église, dans la vie de notre culture, de notre époque. Le sujet principal de ce passage-là, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas l'homme qui est aveugle de naissance, c'est Jésus le sujet principal. Puis en somme, ce qui est en train de nous illustrer à travers ça, c'est que dans cette rencontre avec cet homme qui souffre, Jésus va venir se révéler un peu plus. Il va venir révéler sa personne, il va venir révéler sa mission. On a une image à travers ça. Jésus avait, en fait, l'Évangile de Jean commence avec cette idée que Dieu, le Fils qui vient dans le monde, est la lumière qui vient éclairer tous les hommes. Dans Jean 8, il s'était déjà présenté lui-même comme la lumière qui vient pour éclairer les hommes, qui vient dans le monde. Et on a une espèce de métaphore à travers ça. C'est Tu as un homme qui est aveugle de naissance, il ne voit absolument rien, il ne peut pas voir Jésus, il n'a jamais rien vu depuis sa naissance, et puis il va rencontrer Jésus, et Jésus, qui est la lumière du monde, va venir lui donner la vue physique. Mais c'est juste le début du miracle pour lui. C'est le début d'un vrai et profond miracle. Le recouvrement de sa vue physique est juste le commencement. Parce que plus le passage va avancer, plus son histoire à lui va se développer, plus il va voir Jésus-Christ pour ce qu'il est vraiment. Et puis, paradoxalement, ceux qui prétendent voir, eux autres, ils voient toujours clair, comprennent tout, maîtrisent toute chose, connaissent Dieu, connaissent la Bible, peuvent tout l'interpréter, vont être de plus en plus aveugles à l'égard de Jésus. Donc, celui qui ne voit pas, qui est complètement aveugle, découvre Christ de plus en plus, et ceux qui pensent voir sont tellement éblouis par la grandeur de Christ qu'ils en viennent à perdre la vue complètement, spirituellement. C'est vraiment une très, très belle métaphore. Mais avant d'aller là, dans mon deuxième, troisième point, on va vraiment s'arrêter sur Jésus puis la révélation de Jésus. J'étais frappé en étudiant le passage cette semaine de voir la relation entre la révélation de la personne de Christ, comment Jésus vient se faire connaître à nous, et puis la souffrance humaine. C'est à cause de la question des disciples et la réponse de Jésus que j'ai été intrigué. Donc, mon premier point, c'est « Nous souffrons afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. » Au verset 1 et 2, on lit « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. » Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Puis, ils sont en train de poser une question dans un sens que tout le monde se pose. Quand il y a de la souffrance qui survient dans ta vie, quand il y a de la souffrance qui survient dans ma vie, quand il y a de la souffrance qui survient dans la vie de quelqu'un, généralement, il y a des gens qui vont se sentir coupables. Généralement, il y a des gens qui vont commencer à se poser des questions. Est-ce que c'est de ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que... Je vous donne un exemple complètement banal. J'ai un beau diachylon ici. Cette semaine, j'étais en train de couper des oignons, puis j'ai décidé d'ajouter à mes oignons par inadvertance, une tranche de ballonné. Je me suis littéralement enlevé une petite tranche de ballonné. Ça va prendre des semaines à guérir. Là. C'est comme, il n'y avait plus rien à fermer, d'accord? Fait que, excusez-moi pour les cœurs sensibles, je n'irai pas plus loin. Mais c'est bête, tu sais, tu es en train de faire le souper, tu es en train de couper des oignons, tac, tac, tac. Là, ça fait mal. Puis là, comme, après ce qui vient dans ma tête, c'est « Pourquoi tu as fait ça? » Non, mais t'es bien nounou. C'est comme, c'est tes outils, ça. Tu travailles avec ça. Là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme là, tu ne peux pas couper ailleurs, tu sais. Puis c'est banal, mais c'est littéralement ça. Il arrive un accident, puis tout de suite, je suis en train de me dire, OK, c'est-tu de ma faute? Pourquoi j'ai fait ça? Non, mais c'est bien nounou d'avoir fait ça. C'est banal. La souffrance entraîne ce questionnement-là. Puis c'est un questionnement qui est parfois justifié. Je veux dire, il y a des souffrances qui sont littéralement dues à notre bêtise. Il y a des contraventions qui sont bien méritées, il y a des contraventions qui sont accidentelles, il y a des accidents de voiture que c'est par complète inadvertance, c'est un moment de distraction, puis il y en a d'autres qui sont créés parce qu'il y a quelqu'un qui a une rage au volant, qui est fâché, qui n'est pas à son affaire, puis là, il y a un accident qui est occasionné. Donc, c'est correct de se poser des questions, mais finalement, ce qu'on voit avec ce passage-là, c'est que bien souvent, on n'a pas la réponse. Parce que ce que les Écritures nous disent, c'est que toutes les souffrances dans le monde sont liées au péché. Maintenant, sauvez-vous pas, décrochez pas, restez avec moi. C'est la grande question du livre de Job. Vous irez lire Job, d'accord? Quand je dis que toutes les souffrances dans le monde sont liées au péché, bien quand je vais au début de la Bible, dans Genèse 1, 2, 3, il n'y a pas de souffrance qui attend l'humanité au départ. L'être humain est né pour vivre heureux. L'être humain est créé, pas pour mourir, pas pour pécher, ni pour être malade. Et ce que les Écritures nous apprennent, puis je veux juste dire ceci, si vous dites, c'est bien bizarre cette histoire-là, oui, mais en même temps, cette espèce de contrariété qu'on a face à la mort, ce désir-là de vivre sans maladie, tout ça, c'est un écho de ce qu'on est depuis notre création. C'est une aspiration à un monde où il n'y a plus de souffrance. Moi, je prétends que ça, c'est un indice que la Genèse me dit la vérité sur l'être humain, puis sur ce qu'on est fondamentalement. Nous aspirons à l'éternité parce qu'on a été créés pour l'éternité. Mais ce que les Écritures me disent, c'est que l'être humain a péché, s'est rebellé contre Dieu, et s'en est suivi, une tonne de souffrance. À cause du péché vient la mort de l'être humain. Dieu ne lui permettra pas de vivre éternellement pécheur, autodestructeur, méchant, cruel, meurtrier. Non, il va arrêter ça. Va suivre la mort, la maladie, les péchés, les souffrances qui sont occasionnées par mes propres péchés dans ma vie. Puis lorsque moi je pêche, souvent il y a des conséquences pour les gens autour de moi. Il y a de la souffrance qui vient avec ça. Donc, dans un sens, la question que les disciples posent, de dire « Oui, mais c'est de la faute de qui? C'est qui a péché pour qu'il soit aveugle de naissance? » Bien, dans un sens, ça tient. Mais en même temps, Jésus dit « Écoute, tu n'auras pas toujours la réponse à ta souffrance par une faute personnelle. Il y a des souffrances où tu vas dire, je souffre parce que cette personne-là m'a fait du mal. Je souffre parce que j'ai fait une bêtise. D'autres fois, tu n'as aucune idée pourquoi. Et ce que Jésus est en train de faire dans le passage ici, il est en train de dire, écoutez, c'est peut-être pas ça la question la plus importante. C'est bien de réaliser qu'il y a certaines souffrances dans nos vies qui sont dues à notre bêtise. Puis je devrais me repentir de ça. Je devrais me détourner de cette bêtise-là. Je devrais aller à Dieu puis dire, je suis désolé, Seigneur, puis si ça a occasionné de la souffrance pour d'autres, je devrais aller les voir puis leur dire, je vous demande pardon, je suis vraiment désolé, j'ai manqué. C'est correct, mais bien souvent, pour beaucoup de nos souffrances, il n'y en a pas de réponse. Je n'ai pas la réponse. Puis Jésus est en train de dire, oui, mais la réponse se trouve peut-être ailleurs. La réponse, c'est peut-être tout simplement que Dieu veut venir manifester ses œuvres à travers ta souffrance. C'est le cas pour cet homme-là. C'est le cas pour cet homme-là. Puis ce que je suis en train de vous suggérer, c'est qu'à travers toutes nos souffrances, Dieu veut manifester son œuvre. Si tu es chrétien, tu sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, que Dieu est souverain. Et je suis en train de te dire que toutes nos souffrances, même celles qui sont occasionnées par mes péchés, bien, je suis appelé à m'en repentir puis à découvrir Christ dans ma repentance. Dieu va venir manifester son œuvre à travers ça. Donc, je vous invite à réfléchir à ça alors qu'on va voir ce qui va se passer avec cet homme aveugle de naissance. Puis, imaginez un instant avec moi que cet homme-là qui est guéri miraculeusement, après avoir recouvré la vue, il devait avoir une joie absolument extraordinaire, quelqu'un lui rapporte la réponse de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il est aveugle? Est-ce que c'est de sa faute, la faute de ses parents? Non, c'était pour que Dieu vienne manifester ses œuvres. C'est drôle, cette semaine, j'étais là, je méditais le texte, puis je me suis dit, attends un peu, là. Il me semble qu'il aurait pu, en bon Québécois, péter sa coche. Tu es en train de me dire... C'est un adulte, OK? Parce que les parents vont dire qu'il est assez grand pour rendre compte de lui-même. Fait que c'est un adulte. Tu es en train de me dire que je suis aveugle de naissance juste pour qu'il se passe ça? Je suis quoi, moi, dans l'univers? Un pion? Imaginez qu'il aurait dit, OK, merci Jésus, mais ça s'arrête ici. Tu m'as guéri, mais si moi je suis juste un pantin et qu'une vie de souffrance sert juste à ça, je ne veux rien savoir de Dieu. Imaginez que dans une forme d'orgueil, se soit rebellé contre Dieu, au lieu d'être humble puis reconnaissant, son histoire se serait arrêtée là, alors que son histoire est absolument extraordinaire. Juste, je vous laisse réfléchir à ça, parce que c'est notre combat souvent, devant un Dieu aussi grand qui permet des choses difficiles dans nos vies, la tentation est là d'entrer en contestation. Puis je veux juste vous faire remarquer que dans le passage, Jésus lui-même, et là, si vous êtes familier un peu avec l'Évangile de Jean, je vous dis, Jésus, c'est Dieu fait homme. C'est Dieu le Fils qui s'est incarné. Dieu lui-même est soumis au Père qui est souverain dans ça. Au verset 4, je m'excuse. Jésus va dire ceci, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Fait qu'il dit d'une part, Jésus est en train de dire, cet homme-là est aveugle de naissance, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ça va être le miracle. Ça va être le miracle qui retrouve les yeux, mais il y a un plus grand miracle que ça qui s'en vient lorsqu'il va se prosterner devant Christ. Mais ensuite, Jésus poursuit en disant, « Puis moi maintenant, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. » Et donc, notre Seigneur Jésus, qui est Dieu le Fils, selon l'Évangile de Jean, est lui aussi appliqué à réaliser les œuvres de Dieu à travers sa vie. Et ça pointe vers ses souffrances à lui, sur la croix. Il va accepter que ses souffrances servent à manifester les œuvres de Dieu. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? C'est vraiment extraordinaire. La souffrance dans la vie de cet homme devait servir à manifester les œuvres de Dieu en lui. Et ce que je vous dis ce matin, c'est que les souffrances dans vos vies, si vous choisissez d'être humble avec Dieu, vont servir, que ce soit en comprenant le sens profond ou que ce soit par une attitude qui reflète vraiment une soumission à Dieu, un amour pour Dieu, un abandon entre les mains de Dieu, vont servir à manifester les œuvres de Dieu. Et dans ce cas-là, ces œuvres-là, c'est de faire connaître que Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Verset 4, « Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » L'évangile de Jean commence au verset 9 en disant ceci, Jean 1, 9. « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Cette idée-là que Jésus est la lumière du monde, c'est un des thèmes à travers l'Évangile de Jean. Puis là, on arrive au chapitre 8, au chapitre 9, puis c'est en train de se développer. On est en train de réaliser qu'est-ce que ça veut dire qu'il vient éclairer les hommes, qu'il éclaire tout homme. Il vient donner la lumière de la vie au chapitre 8. Juste un chapitre avant, il avait dit ceci. On lit au verset 12, Jean 8, 12. « Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Bien, regardez bien comment cet homme qui est aveugle de naissance va évoluer dans sa connaissance de Jésus à travers le chapitre 9. Puis ce qu'on voit, c'est ce verset-là se réaliser dans sa vie. Jésus dit au verset 12, Jean 8, 12, Jésus leur parle de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Cet aveugle de naissance ne va pas simplement retrouver la vue physique. Il va suivre Jésus par la foi. Et il ne marchera plus dans les ténèbres. Il va découvrir qui est Jésus-Christ. Je vous épargne un peu les détails, mais après sa guérison, dans le récit, Jésus comme disparaît de l'histoire pour un temps. Il va réapparaître juste à la fin, parce que la suite de l'histoire, c'est un échange entre ceux qui disent voir, les gens qui connaissent la Bible, qui ont toutes les réponses, les religieux qui enseignent le peuple qui est aveugle. Non, eux autres, ils ont la connaissance des Écritures, ils dispensent leur connaissance, ils dispensent leur lumière. Maintenant, ils étaient toujours en conflit avec Jésus. Et donc là, il y a un problème. Il y a un homme qui est aveugle de naissance, tout le monde connaît son histoire, tout le monde sait qu'il est aveugle depuis sa naissance, puis il se promène, puis il voit. Je veux dire, on a un problème. En plus de ça, Jésus a fait ce miracle-là le jour du sabbat. Double problème pour eux. Alors, eux rentrent vraiment dans un débat théologique avec cet homme-là, avec sa famille, avec ses proches. Puis ils arrivent avec un argument théologique béton, un argument biblique selon eux béton. Ils disent, écoutez, ce miracle-là, si ce miracle-là existe, il ne peut pas venir de Dieu parce qu'on sait que Dieu ne fait pas ce genre de truc-là le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'était le jour de la fête religieuse pour les Juifs. C'était un jour de repos, on devait se consacrer à Dieu. Eux disent, il a fait ça le sabbat? Non. Éliminé. Il a donné la vue à un aveugle. Mais ça ne se fait pas le jour du sabbat, donc ça ne vient pas de Dieu. Ils ont un argument très brillant, très théologique. Puis là, ils vont commencer à discuter avec cet homme-là qui n'a pas de connaissances, qui ne peut pas débattre. Il n'est pas de calibre. Vous rencontrez des gens comme ça qui ont toute la connaissance, ils veulent vous instruire. Bien, lui est face à ces gens-là, puis il dit, écoutez, Je ne sais pas. Ils vont venir lui poser des questions. Regardez au verset 11. Il lui demande, c'est qui cet homme-là qui t'a redonné la vue? Vraiment intéressant. Voici sa réponse au verset 11. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Donc, quand on lui demande, qui est l'homme qui a fait ça pour toi? C'est un homme qu'on appelle Jésus. Écoutez les boys, je suis aveugle, j'étais aveugle, je ne l'ai jamais vu. C'est un homme. C'est un homme pour l'instant. C'est un homme qui a fait un miracle dans sa vie. D'accord? Un petit peu plus loin dans le débat, au verset 17, il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, qui n'est plus vraiment aveugle, de moins en moins aveugle, bientôt il va voir très très clair. Toi, qui dis-tu, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Oh, c'était un homme. Maintenant, c'est un prophète. Le prophète, c'est celui qui est envoyé par Dieu pour nous faire connaître Dieu, pour parler de Dieu. Tout l'Ancien Testament est rempli de prophètes. Ce n'est plus seulement un homme. C'est un prophète qui est là pour nous faire connaître Dieu. Voyez-vous, sa vue commence à s'élargir. Il n'a pas encore reparlé à Jésus, mais il est en train de réfléchir à son affaire et il dit, attendez un peu. Là. Vous essayez de me convaincre qu'il ne vient pas de Dieu parce qu'il m'a guéri le jour du sabbat. Non, c'est plus qu'un homme, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu, c'est un prophète. Verset 30, « Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. » Parce qu'ils vont continuer le débat et vont dire, « Cet homme-là ne peut pas venir de Dieu. » Il a fait un miracle le jour du sabbat, il ne peut pas venir de Dieu, il vient du diable. Puis lui, il leur dit, sans grands arguments bibliques, juste par déduction, cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » C'était un homme, c'est devenu un prophète. Non seulement c'est un prophète, mais ce n'est pas un pécheur. Il vient de Dieu. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans la suite du passage. Jésus va aller à sa rencontre et il va lui dire, Jésus va le trouver. C'est ça que le passage dit. Jésus le trouva littéralement. Lorsqu'on va dans le grec, c'est ça que ça veut dire, c'est qu'il est allé le chercher. Puis il est allé compléter cette révélation-là de sa personne. Intéressant, hein? Il était humble. Jésus est allé le trouver et il a complété de se faire connaître à lui. Jésus vient, le rencontre et dit, qui est le Fils de Dieu selon toi? Cet homme-là qui ne prétend pas avoir toute la connaissance du monde, contrairement au chef religieux, dit, écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas, je commence à deviner qui tu es, toi. Tu es un homme de Dieu, tu es quelqu'un qui est envoyé par Dieu, tu n'es pas un pécheur, tu es un prophète. Mais qui est le Fils de Dieu? Jésus lui répond, c'est celui qui te parle, c'est moi. Et regardez bien ce qui se passe à la fin, au verset 38. Il dit, je crois Seigneur, et il l'adora. Et dans le grec, le mot adorer qui est là, c'est il se prosterna. Littéralement, il s'est jeté à terre, et il s'est mis à adorer Jésus. Puis c'est intéressant dans le récit de Jean, il y a quelqu'un d'autre qui va faire ça à la toute fin de l'évangile de Jean. C'est un des disciples de Jésus, c'est Thomas. Et donc, Jésus est en train de se faire connaître de plus en plus. L'homme qui était aveugle de naissance, qui voit maintenant, reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, mais il ne réalise pas qu'il est Dieu le Fils. Et Thomas va faire le même geste, il va se prosterner, il va l'adorer. Et il va déclarer, mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. C'est Jésus qui est en train de se faire connaître, se révéler tranquillement, la lumière du monde qui vient éclairer les hommes. Et ça m'amène à mon dernier point ce matin. Jésus éclaire les humbles, puis littéralement, il aveugle les orgueilleux. Fait que ce passage-là, est là pour nous amener à se positionner. Est-ce que je vais être dans le camp des docteurs de la loi qui sont les grands philosophes de l'époque, ceux qui ont la connaissance, ceux qui connaissent la révélation, ceux qui ont toutes les réponses? Ou est-ce que je vais être comme cet homme-là qui est très conscient qu'il est entièrement mal pris dans la vie, il est aveugle, il n'a pas les réponses? Être aveugle à l'époque, ça voulait dire être mendiant, ça voulait dire être sans ressources. Et devant cette grâce que Jésus lui fait, il n'y a aucune rébellion dans son cœur, réalisant que toute cette souffrance-là avait servi finalement à ce que Jésus se fasse connaître en faisant un autre des miracles de Jésus. Bien, il va rester humble devant Dieu. Puis plus il va avancer, plus sa reconnaissance, son admiration, sa connaissance de la personne de Jésus va grandir, jusqu'à ce qu'il en vienne littéralement à l'adorer. Mais cet homme-là était humble. Alors, voyez-vous, quand je disais dans Jean 8, 12, il dit « Celui qui va croire en moi, qui va recevoir la lumière, celui qui va me suivre, va avoir la lumière de la vie. » Cet homme qui est humble a trouvé la lumière de la vie. Non seulement pour cette vie, puis il avait la vue pour compléter les années sur terre. Non, il a vu celui qui est le Christ, celui qui donne la vie éternelle. Puis d'un autre côté, vous avez ces hommes qui prétendent avoir toute la connaissance, qui, lorsqu'ils arrivent devant le Fils de Dieu, au lieu de s'humilier puis de prendre une posture, une attitude où ils vont juste apprendre ce que Dieu a leur enseigné, ils commencent à débattre avec Dieu, commencent à rejeter Dieu le Fils qui vient se révéler à eux, qui vient leur faire connaître le Père. Leur orgueil les amène littéralement à rejeter Dieu. Ils n'en ont pas conscience parce qu'ils croient posséder la vérité. Fait que ce passage-là nous oblige tous à se positionner. C'est vrai si tu n'es pas chrétien et tu es en train de chercher Dieu. Tu es en train d'explorer le christianisme. Tu te dis, ouais, OK, peut-être, je vais lire la Bible, tout ça. Puis là, il y a des choses qui te choquent, qui te brassent, qui te troublent. Tu vois des choses dans le monde, tu vois des gens qui souffrent. Puis tu n'arrives pas comme à fitter ça ensemble, ces deux morceaux-là, Dieu souverain, puis la souffrance des hommes, puis qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce que tu vas avoir l'attitude humble de l'aveugle de naissance qui, après avoir recouvré la vue, après que sa souffrance ait pris tout un sens, il a trouvé plus qu'un sens à sa souffrance, il a trouvé le sens de la vie, il a trouvé Dieu, le Fils? Ou est-ce que tu vas rejeter ce Dieu-là, entrant en guerre avec lui, débattant avec lui, parce que toi, tu as la vérité. Il ne peut pas se faire connaître à toi selon ses termes et conditions. Non, toi, tu as la sagesse. Bien, à celui qui reconnaît qu'il est aveugle, Jésus donne la vie. À celui qui croit avoir la vue, Jésus est tellement éblouissant qu'ils en perdent la vue, puis restent centrés sur leur connaissance imbue d'eux-mêmes. Et c'est comme ça que ce passage-là se conclut. Je vais inviter les musiciens à prendre place pour vraiment nous conduire dans un temps de louange. On va célébrer ça, puis on va laisser le Seigneur déposer ça dans nos cœurs, puis vraiment venir brasser ça, nous imprégner, puis nous porter à l'adoration, hein, comme l'aveugle de naissance qui s'est prosterné, s'est mis à adorer. Mais je termine avec une autre perle qui est là, qui est dans le passage, puis ça... Sur la première lecture, ça m'a frappé. Je dis, oh wow, ta parole est tellement belle, Seigneur Jésus. Ça m'inspire. Verset 5, Jean 9, 5. Regardez ce que Jésus dit. Ça laisse un point d'interrogation. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est clair dans le passage qu'il est en train de dire qu'il ne sera pas là tout le temps. Il n'est plus là? Il n'y a plus de lumière dans le monde? Et j'ai lu le passage et j'ai dit, ah, c'est intéressant, hein? Pendant que tu es dans le monde, tu es la lumière du monde, puis tu donnes la lumière à ceux qui ne voyaient pas. Je vous amène dans un autre évangile, dans l'évangile de Matthieu, puis c'est Jésus qui parle. Il parle à ses disciples, puis il leur dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise dans les ténèbres. Luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je ne sais pas quelle souffrance tu as vécue dans ta vie. Je ne sais pas quelle souffrance tu vis maintenant. Je porte plusieurs personnes de l'Église en ce moment dans la prière parce que je connais un peu votre souffrance. Puis lorsque la souffrance vient dans nos vies, on part sur des grandes questions. C'est de la faute à qui? On se sent coupable. On cherche. Ce que ce passage-là nous a montré, ce que Jésus nous a révélé, c'est qu'en fait, si tu es chrétien, il veut prendre tes souffrances, puis il y a une œuvre divine qu'il veut manifester à travers toi. Et si tu connais Jésus-Christ, tu es la lumière du monde parce que tu possèdes cette lumière-là en toi. Tu as connu Christ. Et il veut se servir de ces souffrances-là qu'il permet dans ta vie, quelle qu'en soit la cause d'origine, pour manifester des œuvres divines, pour venir se glorifier. En ce matin, on va aller dans l'adoration et ma prière, honnêtement, ma prière, c'est que Dieu prenne tes souffrances puis que par son esprit, il vienne convaincre ton cœur qu'il y a quelque chose de beau et de glorieux qu'il veut faire à travers ça. C'est ça que Dieu fait. Il prend des choses malheureuses puis il fait des miracles avec ça. On va prier. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin. L'Église n'est pas réunie physiquement, Seigneur, mais par ta puissance, avec l'aide des technologies, on est ensemble, Seigneur. Puis on vient t'adresser notre adoration, on vient t'adresser nos louanges, on vient t'apporter, Seigneur, nos souffrances, mais dans cette perspective extraordinaire où nous croyons, Seigneur Jésus, que tu peux manifester les œuvres de Dieu en nous. Si humblement, Seigneur, on accepte que tu as permis ça et on croit en toi. On fixe les regards sur celui qui est la lumière du monde. Seigneur, je te prie pour ceux qui souffrent et qui sont dans les pourquoi, les comment, qu'est-ce qui se passe. Viens leur parler de toi, Seigneur. À travers leur souffrance, détourne leur regard un instant d'eux-mêmes pour les amener à vraiment te regarder, toi, Seigneur. Et découvrir comment tu veux manifester une œuvre divine, comment tu veux manifester ta personne, Jésus. Parce qu'après tout, c'est pas notre histoire, c'est ton histoire que nous racontons. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui souffrent et qui ne te connaissent pas vraiment encore, sont peut-être encore aveugles spirituellement, Seigneur. Ils ont besoin que tu viennes, comme l'apôtre Paul, faire tomber les écailles de leurs yeux pour qu'ils puissent découvrir que tu es Dieu le Fils de Dieu, le Sauveur des hommes. Viens, Seigneur, et par ton esprit, viens éclairer, illuminer les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent découvrir ta beauté, ta majesté, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Amen.